Bonjour, eh bien, on va démarrer l'émission Une heure en Palestine, donc, qui est une émission qui est donc, à Radio Galère, qu'on remercie de nous accueillir, et qui est donc organisée par le collectif Palestine 13, donc, qui regroupe des individus et des organisations du département, très, très active pour militer et rêver d'une Palestine libre, indépendante, souveraine et joyeuse. Bon, je sais que c'est peut-être pas demain la veille, mais on y arrivera. Surtout là, depuis qu'on a vu le résultat des élections en Israël avec l'extrême droite qui revient en force. Mais bon... Les Palestiniens en ont vu d'autres et ils savent nous donner des leçons. Donc moi, je m'appelle Marc Mercier et je suis accompagné de Pascal Piloni.
Bonjour.
Qui est une artiste, vidéo, plasticienne et qui est aussi comédienne. Et elle a eu la gentillesse de venir pour cette soirée. Et elle nous lira quelques poèmes de Mahmoud Darwish, parce qu'il se trouve que le thème un petit peu de notre discussion aujourd'hui, ça sera Jean-Luc Godard et la Palestine. Et Mahmoud Darwish était un ami de Jean-Luc Godard qui nous a malheureusement quittés ce 13 septembre. Et pour la petite histoire, Jean-Luc Godard, oui, quand il a réalisé en 2004 le film Notre musique, qui est un film sur la guerre, bon, Jean-Luc Godard avait réagi à l'époque au massacre qu'il y avait à Sarajevo. Et il avait invité dans son film Mahmoud Darwish. Voilà. Donc d'abord, je vais donner quelques informations. Sachez que dimanche 20 novembre à 11h au Théâtre de la Criée, il y aura, enfin, dans le cadre des rencontres d'Averroès, il y aura une table ronde donc à 11h du matin avec Leïla Chaïd, dont le thème est « Guerre et paix à l'horizon ». C'est une question. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour résister à la guerre ? Donc voilà, il y aura Joanne Chapoutot, qui est un professeur d'histoire contemporaine, Catherine Cocchio, qui est une professeure de littérature comparée, Jean-Yves Joannet, écrivain et critique d'art, et Leïla Chaïd, dont on reparlera tout à l'heure, qui est donc essayiste, ancienne déléguée générale de la Palestine en France et ancienne ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne. Le vendredi 23 novembre... à la faculté de droit d'Aix à 17h30 et le lendemain, jeudi 24, à la cité des associations à Marseille, sur la Canebière, à 18h30, il y aura une conférence sur la ségrégation systématique du peuple palestinien par les autorités israéliennes. Voilà, et je voudrais aussi signaler que du 29 novembre au 6 décembre, donc ça ne se passera pas dans le département, mais je crois que c'est quand même... intéressant de le savoir, car il y aura le Jérusalem International Film Festival, qui est un peu, on va dire, l'équivalent du Festival de Cannes en Palestine. Voilà, et j'en parle d'autant plus avec émotion, car je serai membre d'un des jurys pour remettre le prix de la critique à l'un des films que nous verrons. Donc c'est des films en provenance de différents pays arabes. Voilà. Je vous propose, avant toute chose, d'entendre d'abord un hommage à Mahmoud Darwish par le trio Joubran. Thank you.
زنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستسطح بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستسطح كل شيء يصطفي معنى ويرسل فائض المعنى إلي أنا المعافى الآن سيد فرصتي في الحب لا أنسى ولا أتذكر الماضي لأني الآن أولد هكذا من كل شيء أصنع الماضي إذا احتاج الهواء إلى سلالته وأفسده غبار ولدت دون صعوبة كبنات آوى كالسمند كالغراب ولم أهنئ والدي بصحتي وسلامتي والآن أقفز صاحيا وأرى وأسمع كل هذا الزنبق السحري بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصنع أنا هنالك أم هنا في كل أنا أنت المخاطب ليس منفى أن أكونك ليس منفى أن تكون أنا يا آية وليس منفى أن يكون البحر والصحراء أغنية المسافر للمسافر لن أعود كما ذهبت ولن أعود ولو هنالك موتى ومستوطنات وموتى وبلدوزرات وموتى ومستشفيات وموتى وشاشات رادار ترصد موتى يعيشون بعد الممات وموتى يربون وحش الحضارات موتى 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 يعيش موتى موتى يموتون بالشمس
نجيب المتيم والموالي والمهم وما مضى امس وما اعود الي البعيد فرحان وحسنان نجيب المغام والمعد
على أرضنا من حصى أرض الحكومة من كلام الوجود من هواء البحيرات من زغب الكرة الأشهر من زهرة القبر مكبرة القوم من كل شيء يحاصركم أيها الغيث
أينما
كان آخر وسقط فالتقطني واطلق عدوك بي عدوك بي قر حاصر حصارك بالجنون حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون ذهب الذي ذهب ذهب
Voilà, c'est magnifique, plein d'émotions. Mais je résiste pas d'en entendre encore un peu du Mahmoud Darwish. Pascal, est-ce que tu peux nous dire l'un des poèmes que tu as choisi ?
Oui, bien sûr. Alors, en premier, ce sera « Sur cette terre ».
D'accord.
« Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. L'incertitude d'avril, l'odeur du pain à l'aube, les opinions d'une femme sur les hommes, les écrits d'Eschyle, les prémices de l'amour, l'herbe sur les pierres, les mères se tenant debout sur un filet de flûte et la peur que les souvenirs inspirent aux conquérants. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. La fin de septembre, une dame qui entre, de toute sa sève dans la quarantaine, l'heure de soleil en prison, un nuage imitant une foule d'êtres, les acclamations d'un peuple accompagnant ceux qui montent à la mort avec le sourire et la peur que les chansons inspirent aux tyrans. Sur cette terre, Il y a ce qui mérite vie. Sur cette terre, il y a la maîtresse de la terre, mère des commencements, mère des aboutissements. Elle s'appelait Palestine. Puis on l'appela Palestine. Dame, je mérite, parce que tu es ma dame, je mérite la vie.
Merci, merci. Voilà, bon, c'est difficile de prendre la parole après, parce que c'est quand on entend cette voix et toute cette sensibilité, en tout cas, ça donne envie d'aller en Palestine et pour mieux comprendre. Donc, on va un petit peu parler de Jean-Luc Godard et ses rapports avec la Palestine. Donc, on va remonter dans les années 60, Godard traverse une période, donc on va dire, maoïste, autour de mai 68. Il fait des ciné-tracts, il fait un film fameux qui s'appelle La Chinoise. Et puis, au moment où il tourne Vent d'Est, en 1969, il crée, avec notamment Jean-Pierre Gorin, le groupe Dziga-Vertov. Alors, Dziga Vertov, c'est un grand, immense cinéaste russe qui est peut-être que son film le plus connu, c'est L'homme à la caméra, qui a été d'ailleurs rediffusé il n'y a pas très longtemps au Vidéodrome. Le vrai nom de Dziga Vertov, c'est David Abelevitch Kaufman, et ça veut dire en russe, Dziga Vertov, la toupie qui tourne. Et quand on voit notamment L'homme à la caméra, on comprend ce que ça peut vouloir dire. Parce que Dziga Vertov mettait sa caméra à des endroits complètement impossibles. Aujourd'hui, ça semblerait facile parce que nous avons tous facilement accès à des caméras vidéo extrêmement légères. Mais à l'époque, c'était des caméras cinéma et très lourdes. Mais il était capable de les mettre sous un cheval, de les accrocher sur une charrette, dans un train. Bon, c'était comme ça une espèce de toupie qui tourne, d'imagination en mouvement permanente. Et il est pratiquement l'inventeur de la télévision, en tout cas presque du direct, puisque, par exemple, il pouvait filmer des réalisations donc de la Russie soviétique naissante, révolutionnaire à l'époque. Et ensuite, il montait dans un train et ils faisaient le montage dans le train, et puis quand ils arrivaient à l'autre bout de la Russie, ils diffusaient le film. Voilà. On est presque, c'est du temps réel, avec un petit différé, le temps du montage et de la traversée en train. J'ai trouvé pour rester sur Dziga Vertov, je vais juste vous lire le début d'un texte qu'a écrit Jean-Paul Fargier, qui est aussi un grand connaisseur de Jean-Luc Godard, qui a fait une vidéo d'ailleurs avec Jean-Luc Godard dans le numéro spécial des cahiers du cinéma qui est paru suite à la mort de Jean-Luc. Vous savez que Jean-Luc Godard a choisi sa mort, il a choisi de se donner la mort. En Suisse, c'est autorisé. Et Jean-Paul Fargier dit « Un suicide peut être un auto-engendrement. Jean-Luc Godard a mis fin à sa vie par suicide assisté. Il s'était déjà réengendré une première fois en créant le groupe Dziga Vertov. Cet acte de dissolution de son nom d'auteur dans celui d'un collectif avait été taxé à l'époque, en 69-72, par beaucoup de ses admirateurs déroutés de suicide artistique doublé de masochisme politique. Je faisais partie alors des admirateurs éblouis de ce geste et de ce qu'il accouchait. Quelques films rageurs et drôles, révolutionnaires en un mot, aussi singuliers que ceux que le maître avait signés en personne et qui lui avaient valu le titre de génial fer de lance de la nouvelle vague. » Voilà, c'était les grands enthousiasmes de l'époque. Donc, il s'agissait de quoi pour le groupe Dziga Vertov ? Il s'agissait de faire politiquement des films politiques. Voilà, ils adoraient ce genre de slogan, mais ce n'était pas du vide derrière. Il s'agissait ensuite de le réaliser. Et par exemple, il s'agissait de lutter contre le concept bourgeois de représentation. Alors, Il disait, il s'agit de perturber le public. L'enjeu de la perturbation ou de la destruction de l'illusion fondatrice du dispositif cinéma est au cœur de la nouvelle relation que le groupe Dziga-Vertov veut instaurer avec le spectateur. Ne plus assujettir ce dernier à l'illusion réaliste, assimilée à une forme de servitude volontaire. C'est la condition pour le mettre sur un pied d'égalité avec le cinéaste. À ce titre, c'est l'anti-Hitchcock. Voilà, ils avaient ce genre de vision. Ils voulaient aussi lutter contre l'idéologie dominante. Godard disait que l'idéologie, c'est le rapport nécessairement imaginaire de toi à tes conditions réelles d'existence. Ce qui veut dire que tant que les travailleurs, les exploités n'ont pas pris conscience de la réalité de leur existence, c'est-à-dire qui, par exemple, s'ils s'identifient, s'ils se prennent pour des héros de films qu'ils ont vus le soir à la télévision, donc ils imaginent qu'ils vivent une autre vie que celle qu'ils vivent réellement. Et du coup, ils ne se révoltent pas. L'autre idée aussi que Godard a repris pour expliquer donc la dissolution de son nom dans un collectif, il le reprenait à Bertolt Brecht. Brecht disait que l'œuvre ne m'appartient pas, elle appartient au public à qui je l'ai transmise. Voilà, donc Godard, avec Jean-Pierre Gorin, en 1970, après avoir terminé donc un film qui s'appelait « Lutte en Italie », le groupe Dziga-Vertov donc décide d'entreprendre un film en Palestine qui allait s'intituler « Jusqu'à la victoire ». Le titre n'est pas fini. « Méthode de pensée et de travail de la révolution palestinienne ». Donc Godard fait plusieurs séjours, d'abord seul, puis avec Gorin et Armand Marco, notamment dans les camps d'entraînement palestiniens en Jordanie, en février, mars et juin, juillet 1970. Et donc voilà, et il prévoit, parce que c'était donc des militants maoïstes, il fallait que tout soit prévu, hein, il fallait écrire un programme. Donc le film allait se diviser en 5 parties que je vais vous citer. 1. La volonté du peuple. 2. La lutte armée. 3. Le travail politique. 4. La guerre prolongée. Et 5. Jusqu'à la victoire. Jean-Luc Godard déclarait aux USA en avril 70 « Les deux tiers ont déjà été tournés en Jordanie. Nous devons maintenant faire un premier bout à bout, puis nous retournerons en Palestine pour le montrer aux militants et discuter de ce que devrait être la conclusion politique du film. Nous devons en débattre avec eux et la trouver avec eux. » Or, en plein tournage d'un autre film que Godard était en train de faire, parce que extrêmement actif, il tournait plusieurs films à la fois. Donc, alors qu'il tournait Vladimir et Rosa en septembre 70, il y a eu les tristement célèbres massacres de Septembre Noir, laissant morts et ou mutilés par l'armée jordanienne la plupart des militants rencontrés et filmés par le groupe. Donc, à partir de là, ça devenait déjà compliqué pour Jean-Luc Godard, puisque c'était difficile de discuter effectivement de ce qui avait déjà été réalisé avec des gens qui n'étaient plus dans le combat, puisqu'ils étaient soit morts, soit hospitalisés. Enfin, en tout cas, le film se retrouvait assez perturbé. Il y avait un autre souci pour Jean-Luc Godard, c'est qu'après avoir tenter de monter jusqu'à la victoire, il s'est aperçu que, le son était trop fort. Alors, ce qu'il appelait le son était trop fort, c'est que c'est en fait la voix off qui venait couvrir la voix des militants, la voix du peuple palestinien. Alors, je vais vous lire un passage qui fait allusion à cette histoire. Godard dit « On a fait comme pas mal de gens. On a pris des images et on a mis le son trop fort. C'est la lutte finale. N'importe quelle image, Vietnam, toujours le même son, toujours trop fort. Prague, Montevideo, c'est la lutte finale. Mai 68, France, Italie, révolution culturelle chinoise, grève en Pologne, c'est la lutte finale. Torture en Espagne, Irlande, Portugal, Chili, Palestine, c'est la lutte finale. Le son est tellement fort qu'il a fini par noyer la voix qu'il voulait faire sortir de l'image. » Donc, à partir de là, Jean-Luc Godard se dit que ça ne va pas aller, que son film n'est pas en train d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé. Après cette expérience, donc je passe un petit peu vite, après cette expérience avec donc le groupe Ziga Vertov, donc l'accompagnement de toutes ces luttes à travers le monde, Jean-Luc Godard se retire à Grenoble, où il monte un studio de montage avec Anne-Marie Miéville. Et là, ils reprennent le travail donc inabouti de Jusqu'à la victoire pour réaliser un autre film, donc en 1900, là nous sommes en 1974, qui s'intitule « Ici et ailleurs ». Et comme Godard l'a souvent expliqué, dans ce titre, ce qui est important, ce n'est pas tellement le « ici » ni le « ailleurs », mais c'est le « et ». Et ça, ça a toujours été, dans la grande partie des films de Jean-Luc Godard, de s'intéresser au rapport qu'il peut y avoir entre deux images. Godard dit « une image toute seule, ça ne veut rien dire, il faut toujours qu'il y ait une deuxième image pour que tout d'un coup, il y ait quelque chose, qu'une pensée puisse se construire ». Je vais vous dire comment a été présenté ici et ailleurs à l'époque. Après l'éclatement du groupe Ziga Vertov, Godard se retrouve comme un, j'ouvre les guillemets, un pauvre idiot de révolutionnaire, millionnaire en images de la révolution, dont celles de Jusqu'à la victoire, dont je viens de vous parler, qui sont restées inexploitées. En quête de sa propre identité, cherchant à trouver sa propre image dans l'ordre ou le désordre des autres, il entreprend avec Anne-Marie Miéville une réflexion sur le trucage de l'information, sur le comment et le pourquoi de la non-communication des images et des sons. Ici, une famille française qui regarde la télé. Ailleurs, la révolution palestinienne. Comment se fait-il que la famille d'ici soit incapable de lire et d'écouter ces images et ces sons d'ailleurs? C'est la faute au trop-plein. Face à un bombardement d'images, on ne lit plus qu'une image parmi d'autres, celle qui, a pris le pouvoir sur les autres. Donc, la victoire d'un idéal passe par la prise du pouvoir par l'image. C'est aussi la faute au cinéaste, qui compose son cadre, trie ses images en fonction d'un choix arbitraire ou insidieux. Godard et ses potes ont filmé une femme enceinte qui déclare avec conviction vouloir donner son enfant à la Révolution. Or, ils ont filmé son visage en gros plan. C'est son ventre qui devait prendre le pouvoir dans l'œil du spectateur. Autocritique et prescription de règles, faire en sorte que le son ne dissimule pas l'image. Apprendre à voir ici pour entendre ailleurs. Voilà. Il y a peu de cinéastes, à ma connaissance, qui ont été capables de mener une véritable autocritique de ce qu'ils ont réalisé, de s'apercevoir qu'ils avaient recouvert le film, recouvert les images, recouvert les sons de leur propre, idéologie, ou on pourrait même dire fantasme, quoi. Et pour moi, ça a été une véritable leçon. Je propose une petite pause avec Pascal. Tu nous relis un poème et après, on écoutera une musique.
Alors, ce sera « Je veux davantage de vie ».
Oui.
Je veux davantage de vie pour te rencontrer, davantage d'exil. Si mon cœur était léger, je l'aurais lâché sur chaque abeille. Je veux davantage de cœur pour pouvoir arriver à la cheville d'un palmier. Si ma vie m'appartenait, je t'aurais attendu derrière la vitre de l'absence. Je veux davantage de chansons pour porter mille et une portes, les dresser comme une tente en plein pays et habiter une phrase. Je veux davantage de dames pour connaître le dernier baiser et la première belle mort sur un poignard trempé dans le vin des nuages. Je veux davantage de vie pour que mon cœur reconnaisse les siens et que je puisse revenir à une heure de sable.
Merci, merci, merci. Je propose d'entendre maintenant une chanson de Shadia Mansour, El Kofeye Arabeye.
صباح الخير يا ولاد عمومنا تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا الدموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من
هيك لبسنا الكوفي
البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كمودة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونة كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنياه ثقافتنا بدنياه كرامتنا بدنياه كل شي إلنا بدنياه ما رح نسكت لن نسمح لن
ليك ليك
لا بقلن
يسرقوا شغلي مش إلهن ما خصن فيه
قلدوني
بلبس لبس
من هالأرض
بكفي هنش
طمعانين
عالقدس قدس
اعرفوا كيف
تكونوا بشر
قبل
ما بتلبسوا كوفي
جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هي حطتنا
من هيك لبسنا الكوفي
لأننا وطنية
الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي
هويتنا الأساسية
الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي
علولي هالكوفية
الكوفي كوفي عربي
علوه هلا بلاد الشام
كوفية عربية بتضل عربية
ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله
خليني شوف
الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هجاه دية العرب الثاني بخص غزبة الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شادية منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بدلني عأصولي فلسطينية
من هيك لبسنا الكوفية
لأننا وطنية
الكوفية كوفية عربي من هيك لبسنا الكوفية
هويتنا الأساسية
الكوفية كوفية عربي يلا علي الكوفية
علولي هالكوفية
الكوفية كوفية عربي
علوه هلا بلاد الشام
كوفية عربية بتضل عربي
think it's a trend, a fashion statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The kafia ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable beneath the bandana. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, high, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The Kufi is Arab. Yeah, it's M1 in solidarity. Feel me, Shaja. Dude, from the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Yeah, bang for my flag.
Alors nous allons faire un saut dans le temps. En 2018, Jean-Luc Godard reçoit la Palme d'Or spéciale du jury au Festival de Cannes pour un film qui s'intitule Le Livre d'images, qui sera son dernier long métrage. Et il se trouve que j'entends un matin à la radio, le lendemain certainement de, où le prix lui a été décerné, une amie qui travaille très souvent avec Jean-Luc Godard, qui s'appelle Nicole Brenez, très très grande connaisseuse du cinéma, des avant-gardes, une femme merveilleuse, et qui raconte un petit peu, qui parle du film et qui dit que Jean-Luc Godard a décidé que ce film ne suivra pas le circuit habituel de distribution pour aller dans des salles, que ce film ne pourra être montré que par des gens qui ont du désir pour ce film, qui ont le désir de le montrer. Très mystérieuse phrase, mais moi, ça m'a fait tilt. Il se trouve qu'à l'époque, je m'occupais de la direction artistique des Instants Vidéo, que j'ai quitté en 2021 à cause de désaccords politiques, poétiques, éthiques très très profonds. Et dans ce cadre-là, nous avons donc cofondé avec la Catan Foundation un festival en Palestine, un festival d'art vidéo et de performance qui s'appelle CIN. Voilà, donc moi, je m'occupais de la direction artistique de toutes les programmations. Je m'occupais de, sauf de la Palestine. La Catan Foundation choisissait les œuvres des Palestiniens et moi, je m'occupais du reste du monde. Et ce festival, donc, on l'avait fondé en 2009. Et à partir du moment où j'ai mis les pieds en Palestine pour me lancer dans cette aventure du festival, où on a invité des artistes performeurs d'art vidéo extraordinaires comme Bill Viola, Julien Blaine est venu, enfin plein d'artistes magnifiques, Pascal Lièvre, etc. Mais dès le début, j'avais en tête cette idée très floue de faire revenir Jean-Luc Godard en Palestine. Mais je ne voulais pas me présenter ici ailleurs, qui a déjà été vu. Puis voilà, ce n'était pas mon propos. Je voulais quelque chose qui corresponde aussi à notre époque. Mais ça restait dans ma tête, dans mon cœur. Vous l'avez compris, je suis un grand admirateur de Jean-Luc Godard. Mais que faire ? Mais là, quand Nicole Brenez dit que le film ne pourrait être montré que par des gens qui ont du désir de le voir, je contacte aussitôt Nicole Brenez, je lui dis « Écoute Nicole, j'ai écrit une lettre pour Jean-Luc Godard, est-ce que tu peux lui transmettre ?» Et dans cette lettre, je dis à Jean-Luc Godard « Ben voilà, moi je connais deux endroits où je peux montrer le film, c'est en Palestine, à Ramallah et à Gaza. Et ensuite, si vous êtes d'accord, à Marseille pour les instants vidéo. » Donc Jean-Luc Godard accepte aussitôt. Donc je suis tout excité, comme une puce, comme une toupie volante, comme dit Gavertov. Et puis je demande Donc je préviens nos camarades en Palestine, qui sont évidemment très 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 heureux. Bon, sauf qu'ils vont avoir du boulot, parce qu'il va falloir faire un sous-titrage en arabe, ce qu'ils ont fait. Et donc on a pu montrer le film donc à Ramallah et à Gaza. Donc c'était assez extraordinaire de voir les deux conditions de présentation du film. À Ramallah, comme la Katan Foundation venait d'avoir des nouveaux bâtiments, une salle absolument merveilleuse, bien équipée, ils avaient transformé cette salle pour l'accueil de ce film. Ils avaient fait un décor comme jamais. Enfin, ils avaient fait pour d'autres présentes. C'était très, très émouvant. Et puis à Gaza, c'était, on va dire, plus artisanal. Les gens étaient assis par terre, le film était sur une télévision. Voilà. Et quand j'ai envoyé à Jean-Luc Godard des images des deux projections, il a dit qu'il préférait Gaza. Bon, je pense que c'était aussi par son cœur qui parle, quoi. Voilà. Donc, voilà. Mais auparavant, j'avais aussi dit à Jean-Luc Godard, peut-être que vous souhaiteriez vous adresser au public palestinien avant la diffusion du film. Et je sais que vous ne pouvez pas vous déplacer, mais moi, je peux lire un texte que vous écrivez ou diffuser votre voix, ce que vous voulez. Donc, il a dit oui. Et donc ça a tardé, moi j'osais pas le ressolliciter. Et puis un jour, boum, je reçois un fichier vidéo. En fait, il a refait un film. En fait, il a pris un court-métrage qu'il avait déjà réalisé auparavant, qu'il a un petit peu transformé. Il a introduit à l'intérieur des images de Jusqu'à la victoire, donc de la Palestine. Et il a changé le titre. Donc ça s'appelle Sans titre. Voilà. Et c'est. Sans S-A-N-G. Voilà. Et c'était extrêmement émouvant. Donc le film a été présenté à Ramallah, ensuite à Gaza et ensuite à Marseille. Et sur les trois lieux, j'avais lu en introduction un poème que je vais vous lire. Poème que j'ai intitulé « Avant le livre, avant l'image ». Il y a Marseille, Ramallah et Gaza. Trois villes qui parfois s'effondrent, qui toujours se soulèvent malgré tout. Il y a le livre d'images. Il y a Jean-Luc Godard qui veut que son film ne soit montré que par des gens qui ont du désir pour ce film. Connaissez-vous un endroit au monde où des femmes et des hommes sont en capacité d'accueillir avec joie une œuvre qui murmure ? Et même si rien ne devait être comme nous l'avions espéré, cela ne changerait rien à nos espérances. Elle resterait une utopie nécessaire. Il y a Gaza et Ramallah, bien sûr. Il y a aussi Marseille. Marseille, c'est un peu la Palestine de la France. En 1794, elle a dit non au pouvoir central. Les Jacobins lui ôtèrent son nom. Ville sans nom, ville sans pays. Il faut tisser ces trois cités si précieuses, Ramallah, Gaza et Marseille, d'un film d'or. Et ce sera le livre d'images. Un film cousu-main, car la vraie condition de l'homme, entend-on dans le film, ses pensées avec ses mains. Un film non pas tourné par, mais tourné vers le monde arabe, dont tout le monde parle, mais que personne n'écoute. Godard aussi est palestinien. On parle beaucoup de lui. Peu écoute ses paroles. Peu regarde ses images. Il y a le festival Cine en septembre. Il y a les instants vidéo en novembre. Il faut soigner ses ouvertures de festival. Dans un monde qui vénère les murs et les bénéfices qu'il en tire. Il y aura pour cela le livre d'images qui sera projeté vers l'avenir, depuis Ramallah, Gaza et Marseille. Trois fois le printemps en automne, ici et ailleurs. Bien sûr, la guerre est là, dans le film comme hors du film. Il y a des écrans numériques partout qui diffusent des images aveugles, qui nous disent « circulez dans vos geôles, il n'y a rien à voir ». Il y a tout de même des êtres qui lèvent le doigt pour dire quelque chose, pour montrer quelque chose, pour sentir d'où vient la brise du désir. Tout le monde regarde le doigt alors qu'on nous montre le monde. Il doit y avoir une révolution, en souffrance, un ardent espoir. Voilà. À Marseille, après cette lecture de poème, j'ai invité à monter sur scène Leïla Chaïd, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et parce que Leïla Chaïd connaît bien Jean-Luc Godard, et il se trouve qu'elle était au Liban, en Jordanie, quand Jean-Luc Godard est venu tourner son film. Et donc, elle est venue nous raconter quelques histoires que vous allez entendre. Donc, vous n'allez pas voir les images, parce que pour moi, c'est assez émouvant, car elle fait tout son discours en me tenant la main. Et comme Leïla Chaïd, c'est un personnage pour moi un peu... qu'on pourrait dire, un peu pas mythique, parce qu'elle est en chair, en os, et on la connaît, mais voilà, quoi, c'est quelqu'un pour qui nous sommes très nombreux à avoir beaucoup d'admiration. Donc, nous allons écouter Leïla Chaïd.
Nombreux, ça fait plaisir de vous voir. Alors, je tends ma main à Marc, parce que sans Marc, je ne pourrais jamais voir ni ce premier film, qui est une lettre de Jean-Luc Godard aux Palestiniens, qui a accompagné donc la copie du film que Marc a amené à Ramallah, mais surtout, il n'y aurait pas de copie pour les Palestiniens, ni pour vous, les Marseillais. Alors, figurez-vous que vous et les habitants de Ramallah et les habitants de Gaza et les habitants de Marseille, vous êtes les premiers à voir son film, hein, parce que le film n'est pas diffusé. Et si vous avez bien vu, je crois que la réponse de nos amis de la Fondation Khatan prendra un peu de temps, parce qu'il faudra qu'ils décodent le film. Et ils voudront le décoder pour savoir comment répondre avec leur propre code à Jean-Luc Godard. Mais je trouve que cette aventure est magnifique, inclut la mienne avec Marc, parce que lorsque Marc m'a appelé il y a quelques mois pour me dire que les instants vidéo avaient dans ce 32e festival une copie du film avec l'autorisation de Jean-Luc Godard de le montrer, qu'il allait partir en Palestine pour porter le film avec Yannick aux amis, parce qu'ils ont un festival de vidéo qui est donc partenaire de Instant Vidéo, qui est beaucoup plus jeune, il n'est qu'à sa 6e année. Je lui dis, mais comment tu as fait? Il m'a dit, j'ai tout simplement pris mon téléphone et j'ai appelé Jean-Luc Godard. Alors je suis tombée amoureuse de Marc Mercier et de nouveau de Jean-Luc Godard. Parce que je suis de ceux qui pensent, oui, je suis de ceux qui pensent que l'histoire est aussi faite d'initiatives personnelles, qu'il ne faut pas attendre que les institutions, que les CNC, que le ministère de la Culture, qu'on fasse les choses pour nous. Que ce que Jean-Luc Godard a prouvé de manière magnifique, c'est qu'il suffisait qu'un directeur artistique de festival, qui a eu une idée intelligente, a pris son téléphone et Godard a réagi d'une manière extraordinairement généreuse, intelligente. Et pour ça, je remercie Marc Mercier. Et vous aussi. Alors, bien sûr, lorsque Marc m'a appelé, il ne connaissait pas, il ne savait pas très bien. Bon, c'est vrai que je suis amie avec Jean Genet, d'ailleurs, en travaillant un peu sur cette édition du 32e festival d'Instant Vidéo. J'ai découvert, et c'est un livre à faire. C'est peut-être toi qui vas le faire d'ailleurs, je te racontais des histoires. Il y a tellement de choses en commun entre Genet et Godard que ni l'un ni l'autre ne devine, mais que je vois vraiment chez les deux. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler ce soir. Je vais vous dire que lorsque Marc m'a demandé de venir pour un peu vous parler avant le film, mais je ne vais pas prétendre présenter le film, je ne suis ni cinéaste, ni critique de cinéma, ni spécialiste de l'image. Mais j'ai toujours été très impressionnée parce que j'ai eu la chance, il y a 50 ans, de recevoir Jean-Luc Godard à Beyrouth. Comme vous le savez, il a eu une période maoïste très importante, très militante, pas seulement sur la Palestine, mais sur toutes les luttes, à commencer par les luttes des travailleurs en France. Et puis, il a voulu faire un film aussi sur la lutte palestinienne. 68, 69, 70, 71 étaient des années fastes. Et vous devez le savoir, parce que c'est devenu malheureusement de l'histoire. Ce n'est plus pareil aujourd'hui. La plupart des intellectuels de gauche et d'extrême gauche allaient sur place, allaient dans les bases des fédayines, allaient dans les camps de réfugiés au Liban, s'impliquaient beaucoup, vraiment, femmes et hommes. Et c'est comme ça d'ailleurs que Genet aussi s'est retrouvé dans les camps de combattants, mais aussi dans les camps de réfugiés, parce que ce n'est pas la même chose. Et Godard aussi. Et donc, je faisais partie de ces nombreux militants palestiniens, francophones par ailleurs, comme Elias Sambar. Et donc, lorsque Godard débarque avec Elias Sambar à Beyrouth, bien sûr, il fallait des gens qui parlent français pour qu'ils puissent échanger avec Godard, qui faisait son apprentissage un peu sur la réalité palestinienne. Il la connaissait à travers, encore une fois, les images. Et donc, il était très, très curieux de connaître la réalité dans les camps, chez les intellectuels, dans les organisations politiques. On avait des complicités, disons, idéologiques. Et donc, il nous a expliqué ce qu'il voulait faire. Il avait réussi, il était... Ça aussi, ça me rappelle Jean. Avec beaucoup de malice, il nous a dit, je suis arrivé à arracher 6 000... À l'époque, c'était des francs français et pas des euros, 6 000 francs à la Ligue arabe pour acheter une caméra vidéo. Et je me rappelle, on lui avait dit, mais c'est quoi une caméra vidéo? Je te jure. Il a dit, une caméra vidéo, c'est une caméra où, pendant qu'on filme, on voit sur l'écran ce qu'on filme. Ça existe? Eh bien oui, c'est la première. Et comme je n'en avais pas une, j'ai convaincu la Ligue arabe. La Ligue arabe, c'est les 22 États arabes qui sont plutôt riches parce qu'ils ont de l'argent, qui ont un bureau à Paris, comme une ambassade à Paris. Et donc, ils ont financé sa première caméra vidéo. Et je vais aller filmer dans les camps de réfugiés, mais aussi dans les bases au sud du Liban, parce que les Palestiniens avaient des bases au sud du Liban et en Jordanie, pas en Syrie, pas dans le reste des pays arabes. Et donc... Il part, et puis je leur donne rendez-vous à leur retour, un peu pour écouter leur impression, voir un peu s'il avait pu filmer ce qu'il voulait filmer. Et je les ai invités à la maison, chez mes parents. Et à ma grande surprise, Godard me dit, mais on n'a pas pu filmer. Et moi, j'étais persuadée qu'il y avait eu un apparatchik de l'OLP qui lui a dit, là, c'est interdit, là, c'est permis. Il me dit, non, non, pas du tout, les Palestiniens ont été très gentils. Alors, c'est quoi le problème? Il n'y avait pas de problème. J'ai rencontré dans une des bases un extraordinaire médecin, Jawad. Jawad, il était étudiant de médecine en Espagne. Et lorsqu'il y a eu les massacres de Jordanie en 70, il a décidé de revenir parce qu'Arafat avait appelé la plupart des médecins à venir rejoindre les Palestiniens en Jordanie parce qu'ils se faisaient massacrer et ils ne pouvaient pas être admis dans les hôpitaux libanais. Et Jawad est rentré et puis il est devenu combattant. Il n'est plus jamais revenu en Espagne. Et lorsqu'on visitait sa base militaire, soudain, j'ai vu entre deux maisons un drap blanc. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce drap blanc ici? Et il m'a dit, mais c'est mon écran. Il lui dit, écran? Pourquoi tu projettes des films? Il lui dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux que les combattants fassent le soir? Je projette des films. Il lui dit, ah, mais ça m'intéresse beaucoup, parce que moi, justement, je fais des films. Bien sûr, Jawad ne connaissait pas l'existence de Jean-Luc Godard à l'époque. Et puis, ils deviennent très amis. Et ni d'un ni de deux, Jean-Luc Godard lui donne la première caméra vidéo achetée avec l'argent de la Ligue arabe. Plus de caméra pour filmer. Et donc, Elias Sambar essaye diplomatiquement de lui dire, mais on est vu filmer, et la Ligue arabe, et comment on va filmer si on n'a plus de caméra? Il dit, ce que va faire Jawad avec la caméra, c'est plus important. Jawad, qu'est-ce que tu vas faire avec la caméra? Et Jawad dit, c'est très simple. Les combattants partent de cette base. Il traverse la frontière du Sud-Liban, puis la frontière d'Israël. Quelquefois, ils reviennent et on les célèbre comme des héros. Et quelquefois, ils ne reviennent pas. Mais nous, on ne sait jamais, lorsqu'ils ne reviennent pas, pourquoi ils ne sont pas revenus. Si je fais porter la caméra par un d'entre eux, j'aurai au moins les images en direct de leur opération. Et ça encouragera leurs camarades à savoir au moins comment ils ont été tués et qu'ils ne sont jamais revenus. Et Godard dit, vous voyez bien que c'était plus important que mon film. Et c'est comme ça qu'il est rentré à Beyrouth, sans la caméra et sans image. Et bien sûr, la Ligue arabe était folle furieuse parce qu'à l'époque, 6 000 francs, ça valait très cher. Et il est reparti en Jordanie. Alors, le premier film qu'il voulait faire et qui correspondait à ce qu'il aimait faire à l'époque pour toutes les autres causes qu'il a défendues, s'appelait « Révolution jusqu'à la victoire ». Et donc, on en a beaucoup parlé. Il voulait des informations de chacun d'entre nous. Il comparait ce que les femmes disaient, ce que les hommes disaient, ce que les Palestiniens du Liban disaient, ce que de Jordanie disaient. Et il avait une totale liberté. Exactement comme Jean Genet, qui d'ailleurs, ni Jean Genet ni Godard n'auraient accepté de passer 24 heures chez les Palestiniens si on leur avait imposé des restrictions. Genet était un peu plus arrogant que Godard et il a dit à Arafat, si je n'ai pas un papier qui me permet d'aller partout, je ne veux pas rester. Et il a eu le papier qui lui a permis d'aller partout, il a été partout. Godard n'a même pas eu besoin de papier, c'était évident. Et donc il a beaucoup filmé et il y a maintenant beaucoup de travail, dont le vôtre Marc, qui raconte les archives de Godard, parce que ce que vous avez vu de la production de Godard n'est qu'une petite partie, il y a tout ce qu'on n'a pas utilisé. Et il y a énormément d'images sur la lutte des Palestiniens parce que, comme toute une génération d'artistes et d'intellectuels français, c'était une des grandes révolutions dans ces années-là pour les révolutionnaires du monde entier et pas seulement pour les Palestiniens. Et donc, la première version du film était beaucoup plus linéaire, beaucoup plus, je dirais, elle ressemblait beaucoup plus à toute une forme de cinéma direct qui était celui des militants qui couvraient la révolution vietnamienne ou l'Afrique du Sud ou l'Algérie ou Cuba. Et puis il est reparti. Il y a eu quelques changements dans le groupe d'Iga Vertov qui était le groupe principal avec qui il travaillait. Et c'est drôle, exactement comme Genet, il n'a pas tout de suite fait le film. Et donc, bien sûr, les Palestiniens, nos amis, etc., lui disaient « Mais alors ce film, Genet me raconte. » Et on me disait « Alors ce livre, et alors ce livre. » Puisque lui, il était en 70 en Jordanie, il restait 6 mois. Et Genet aussi. Son livre a pris entre 70 et 86, 16 ans pour sortir Un captif amoureux. Godard, c'était un peu moins long. Mais la deuxième version du film dont a parlé tout à l'heure Marc, qui pour moi est un chef-d'œuvre vraiment, c'est Ici et ailleurs. Et Ici et ailleurs est un film remarquable parce que justement c'est le film vraiment de Godard à la manière de Godard. Ça veut dire c'est un film qu'il faut décoder, qu'il faut voir comme étant une démonstration de ce que l'image veut dire et comment on filme une réalité qui n'est pas la nôtre. Ici, et comment cette image qu'on filme ici a une relation avec l'ailleurs. Et je pense que toute l'intérêt des révolutions du monde, c'est toujours ici et ailleurs. Si c'est seulement ici, ça n'a pas d'intérêt. Ça devient du local, ça devient une lutte locale qui ne nous concerne pas. C'est parce qu'elles ont toujours une relation à l'ailleurs, qu'elles soient à la rue d'Aubagne, ou qu'elles soient à Hébron en Palestine, ou qu'elles soient à Beyrouth, dans les rues de Beyrouth, ou qu'elle soit à Alger contre les militaires, qu'elle soit là où le peuple se soulève, c'est toujours la même lutte. Et je trouve qu'il a été presque prémonitoire. Prémonitoire, parce que rappelez-vous quand même, quel âge il a le film ? Il est sorti en
74.
Donc il a plus de 40 ans le film. Et je trouve qu'il a été prémonitoire parce que maintenant, nous avons tous le beau rôle de dire que la révolution, elle est universelle ou elle n'est pas une révolution. Et je trouve que dans sa manière de voir la Palestine, il rend un hommage immense à la Palestine parce qu'il n'en fait pas seulement une affaire palestinienne. Et donc, dans cette année qui a vu la tragédie de l'effondrement des logements de la rue d'Aubagne, de la mort de 8 personnes plus une autre, je trouve que ce thème de l'effondrement et du soulèvement est absolument magnifique. C'est la première chose que j'ai remarquée. Je lui dis, c'est drôle, moi je parle, moi et Dominique Vidal, mon complice ici présent, on parle tout le temps d'effondrement, de soulèvement. Vous savez, intifada, qui est le terme pour soulèvement en Palestine et aujourd'hui au Liban, ça veut dire exactement ça, soulèvement, un mouvement sur soi, comment on reprend confiance, comment on décide de prendre en main son destin. il ne vient qu'après l'effondrement, parce qu'il n'y a pas besoin de se soulever si on n'a pas été effondré. Et donc, en hommage à ces victimes, en hommage à toutes les autres, et à toutes leurs familles, et leurs camarades, et leurs voisins, je trouve que c'est une très belle manière, ce soir, de dédier cette œuvre aux gens de la rue d'Aubagne, à tous ceux qui ont décidé, comme les Palestiniens, comme les Libanais, comme les Algériens, comme les Soudanais, comme les Irakiens, qui aujourd'hui tous se soulèvent, même si certains ont les manchettes des journaux et d'autres comme les Soudanais, qui sont peut-être la révolution la plus accomplie, n'ont pas droit à ça. Je trouve que, comme hommage, la projection de ce film dans votre belle ville de Marseille, que Marc appelle un petit bout de Palestine à Marseille. Il dit « Marseille est un peu de la Palestine ». Et donc, il vous dira une autre fois pourquoi, mais nous sommes honorés en tant que Palestiniens d'être un petit bout de Marseille aussi. Et merci encore une fois aux instants vidéo.
Voilà, après ces très belles paroles pleines d'encouragement, il va falloir nous quitter. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage en Palestine godardienne. Je remercie Pascal Piloni, je remercie Radio Galère, et je ne me rappelle plus son prénom.
C'est dit.
Voilà, merci beaucoup, et puis j'espère à une autre fois. Au revoir.
Au revoir.
Bintish Shalabi.